Question posée par Nicolas. Voilà, est-ce que certains spontanément, toujours un exercice de style, mais est-ce qu'il y a déjà des réponses? Comment tenir, hein, les, on va dire, un peu les normes des programmes recommandés par la Haute Autorité de Santé, on va dire, et puis finalement, le vivant qui est la rencontre avec les patients et les personnes et ce qu'elles savent déjà? Y a-t-il des expériences entre le cadre un peu et puis comment on joue avec ce cadre? Le lien est fait avec Daniel.
Je pense que la réponse, nous l'avons eue ce matin par Gérard Réac qui nous a parlé d'EBM et on est en plein dedans. La question inclut les recommandations et le patient. Et c'est le médecin qui va résoudre qui va essayer de résoudre l'inéquation que vous énoncez.
Alors, médecin énonce, résolvant finalement l'inadéquation qui s'opère. Oui, question. Mais on va commencer par celle du bas.
Ce matin, la première communication a parlé de l'importance du décloisonnement professionnel et de dialogue multi-acteur, multi-secteur, et peut-être que c'est aussi une clé, la rencontre, je dirais, multi-acteur, multi-professionnel et multi-secteur, pour peut-être avoir de la cohérence sur les programmes d'éducation.
Donc une proposition de renforcer le décloisonnement, alors en haut.
Alors, il me semble que l'expérience qu'on a dans nos séances d'éducation collective, c'est à partir d'un terme et d'un thème. Le problème du soignant, c'est de renoncer à certaines choses. C'est-à-dire, à partir du moment où on a accepté ça, on n'a plus de problème d'adéquation, parce qu'on part effectivement de l'attente, du besoin, on va répondre à ces attentes et besoins, et ensuite, on est dans une déviation standard, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui peut être dangereux pour le patient, et ce qui n'est pas dangereux, qui n'est pas très orthodoxe, mais pas dangereux, et qui va tout de même dans le bon sens, hein, c'est-à-dire qui ne va pas descendre au lieu de monter, ben voilà. Après, on s'en sort. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si Mireille, qui travaille avec moi au quotidien, pense la même chose, mais que l'expérience nous montre, alors de là, pour le soignant, ce qui est compliqué, c'est d'être adaptable. Et ça, c'est vraiment un terme vraiment important, il me semble, dans l'accessibilité. Et puis, d'avoir une connaissance importante du sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de l'éducation si on n'est pas vraiment au top, justement, de l'evidence-based medicine. Pour renoncer à ce qui n'est pas indispensable, et puis ensuite travailler sur le reste. Voilà, il me semble que ça... Comment je répondrai?
Sandrine.
Oui, donc je me permets de rebondir sur ce que vient de dire la personne qui est intervenue juste avant. Il est vrai que... moi, j'ai parlé de l'expérience que nous avons dans nos séances d'éducation aussi collective, où nous avons, on répond au programme, aux items du programme de l'ARS, avec tous les objectifs pour une pathologie donnée, tous les objectifs qui sont potentiellement abordables par les patients. Et en séance, il y a un diagnostic éducatif collectif qui se fait en début de séance, et les animateurs choisissent les activités en fonction de ce que les patients veulent aborder au sein de cette séance. Et donc je pense que cette adéquation entre programme affiché et contenu passe par un exercice, une prouesse des animateurs à pouvoir adapter les besoins et demandes des patients au programme et aux activités, et plutôt.
Moi, je suis tout à fait d'accord aussi avec ce que vous venez de dire. Nous, on a fait un programme où, effectivement, il y a des objectifs fixés. Après, le diagnostic éducatif est là pour faire le tri entre ce qu'il y a déjà dessus dans le programme et ce qu'on va aborder. C'est tout l'intérêt du diagnostic. Donc, souvent, nous, les séances collectives sont des petites séances collectives, mais il s'avère que si sur les quatre, il y en a trois qui ne savent pas, on va faire travailler celui qui sait, et c'est lui qui devient l'apprenant pour ses compères, en fait. Et c'est bien, enfin, Voilà, c'est aussi une petite astuce où nous, on n'est pas obligé d'apporter toutes les solutions. Il y a des patients, sans qu'ils soient nommés patients ressources, qui savent, ben, autant leur en faire profiter.
Mais oui, est-ce que... ah ben, on a...
Non, parce que je voulais simplement... Parce que je vois bien que... de faire participer les patients au moment de la séance, c'est bien sûr, c'est essentiel, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais moi, j'ai une question à vous poser, parce que je suis représentant dans un hôpital, une équipe est venue me présenter un programme d'éducation thérapeutique du diabète. Alors, comme je n'y connaissais rien, j'ai pas pu véritablement les aider, mais j'avais un peu l'impression quand même que cette demande venait en fin de parcours, c'est-à-dire que tout était bouclé, et qu'on demandait à un associatif, bon, bah, tiens, qu'est-ce que vous en pensez, de presque une sorte de validation du programme. Et la réflexion que vous avez au niveau d'une séance, c'est-à-dire de partir de ce que savent les gens et ne pas partir des connaissances qu'on aimerait qu'ils aient, ou en tout cas de leurs lacunes, est-ce qu'on ne pourrait pas non plus l'imaginaire ? Je sais que ça se développe de plus en plus, mais enfin, on est quand même... et en entendant mes collègues au sein du collectif interassociatif sur la santé parler de ces choses-là, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de programmes qui sont parfois faits en dehors des associations et donc des patients, c'est-à-dire dès la conception. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait deux poids, deux mesures, c'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'il y ait dès la conception, dès le départ, un mode collaboratif entre des associations de malades et des professionnels pour concevoir l'outil, et puis après, bien entendu, lors de la séance, d'avoir une méthodologie qui permette non pas d'appliquer cette règle-là valable pour tout le monde, mais d'individualiser un petit peu l'éducation pour que les gens aient le sentiment d'apporter aussi leurs pattes au sein de la séance. Et c'est ça que j'arrive pas encore très bien à voir.
Ici, je peux... Ah. Quand on est en haut, on est... Allez, voilà, merci. Gabriella Mermisi, je travaille avec Geneviève Vaillant et son équipe dans le cadre du réseau. Voilà. Alors, je vais juste parler un tout petit peu de ma petite expérience. Hein. On a été confrontés puisqu'on souhaitait créer un programme qui s'appelle Diabattable autour du comportement alimentaire. Et moi, j'ai été confrontée avec perplexité à toute la complexité de cette problématique du diagnostic éducatif et de sa conséquence qui est l'élaboration du contenu du programme. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les patients, dans leurs attentes, eh bien, par rapport à ce que moi, je souhaitais travailler avec eux, c'est-à-dire plus être sur le comportement, il n'y avait pas de demande. Et je me suis vraiment demandé comment faire avec ça, quoi. On était, pas sur la même longueur d'onde. Et en fait, après réflexion, la voie du milieu que j'ai trouvée, je peux dire le compromis que j'ai trouvé, ça a été un peu le donnant-donnant, c'est-à-dire à la fois aborder la thématique telle que eux le souhaitaient, avec des approches tout à fait classiques sur, on va dire, l'alimentation, et en contrepartie, utiliser des repas pris ensemble pour travailler les aspects comportementaux et notamment l'écoute des sensations, la lenteur, etc. Et moi, je trouve, on a terminé ce programme maintenant, enfin, on a testé en tout cas cette formule, et je trouve ce compromis assez satisfaisant parce que le retour qu'on a eu, c'était des patients extrêmement satisfaits d'avoir découvert sous un autre angle le comportement alimentaire. Donc voilà, c'est cette co-construction qui m'a semblé vraiment pertinente pour résoudre cette problématique. Merci.
Moi, je rebondirais sur la co-construction. C'est vrai que moi, toujours médiatrice, animatrice, voilà, travaillant avec le pôle santé, travaillant également avec l'atelier Santé-Ville, donc vous devez connaître aussi, sur les territoires politiques de la ville. Voilà, moi, je suis persuadée que la coopération, la collaboration, le décloisonnement aussi, hein, chacun sortir un petit peu de ses... Voilà, des cadres, hein, remettre en chantier, en fait, chaque jour... ce qu'on a appris, comment on est. J'aime bien cette idée aussi de créativité d'innovation aussi, hein, se re-questionner chaque jour et surtout vraiment coopérer entre les médecins du quartier, les éducateurs de prévention, les animateurs, animatrices, les personnels de l'éducation, hein, être tous ensemble en fait pour inventer, pour innover. Je pense que c'est là au profit en fait des habitants, habitantes, jeunes, moins jeunes, personnes âgées, qu'on trouvera en fait, qu'on trouvera des solutions. Et aussi revenir aux outils. C'est vrai qu'avec l'atelier Santé-Ville, avec les outils, ça c'est vraiment aussi, enfin moi je le redis, hein, avec le photolangage, avec les cartographies sociales, ça c'est des choses aussi qu'il faut utiliser, c'est des vraiment excellentes médiations. Vous parliez de la demande, si, les demandes, il y en a toujours, mais il faut des médiations. Et les outils sont vraiment des excellentes médiations.
Oui, je voulais dire à deux mots, Jean-François Divernois, sur les partages de savoir. Alors, le savoir partagé, on en parle souvent, c'est presque un peu une tarte à la crème. Mais ça pose un problème qui est très intéressant sur le plan de la recherche, parce que le savoir médical, il s'est construit depuis une vingtaine de siècles. Et il est très riche, il est codifié. Aujourd'hui, il s'appuie sur des études mondialisées, sur des grands nombres. Bon, on nous a parlé de l'evidence-based medicine, qu'on oppose en tant que démarche scientifique collective à l'appréciation de la singularité du patient. Ce savoir du patient, il faudra qu'à un moment ou à un autre, on en fasse un peu la catégorisation, qu'on en construise le répertoire, qu'on essaye de, même si chaque personne sait quelque chose en particulier, il y a quand même des savoirs qui sont collectifs et qui peuvent être intéressants pour la médecine et pour la santé. Donc c'est les recherches que nous essayons de mener à travers des patients diabétiques ou des patients hémophiles qu'on appelle sentinelles, c'est-à-dire c'est des patients qui ont développé une sémiologie personnelle tout seuls dans leur coin, qui n'osent même pas tellement partager avec les médecins parce qu'ils ont peur d'être ridicules, mais qui est un savoir réel fondé sur l'expérience. Donc moi, mon message serait de dire, on commencera à faire des progrès dans le partage des savoirs quand on commencera également sur le plan scientifique à essayer de savoir de quoi sont faits ces savoirs, justement. Au-delà de l'anecdote, au-delà de l'histoire personnelle qui ne franchit pas les limites d'un individu, il y a sans aucun doute des observations, il y a sans aucun doute des signes, des symptômes, des règles, des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes même pour en savoir plus sur le contexte pathologique.
Voilà, alors l'enjeu de ce qu'on appelle les savoirs expérientiels, sur ce que certaines équipes commencent à configurer. Nicolas, une réaction ?
Non, voilà. Merci.
Moi, j'aurais simplement pas participé de ces échanges en signalant une chose que tu as signalée en lien avec l'expérience de l'AFH. C'est une croyance tout un peu étayée. La rencontre de co-construction ne se fera que si nous avons des médiateurs méthodologiques. Si l'expérience de l'AFH réussit, c'est parce qu'il y a des personnes tierces qui ont une culture soignante, une culture patiente, qui connaissent et qui ont surtout des méthodes pour faire travailler les gens ensemble. La rencontre sans préparation méthodologique est vouée à l'échec. C'est ma croyance. Et donc, il va falloir se préparer à construire les méthodologies de la rencontre pour justement laisser les singularités s'opérer et advenir éventuellement ces fameuses co-constructions. Merci beaucoup, Nicolas. C'était bien, hein ?